Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce plateau en direct. Nous sommes place de la Calade, nous sommes le samedi 9 décembre et ce samedi 9 décembre est tout particulier car il y a un événement qui se déroule à Nîmes qui est une agora citoyenne. Agora citoyenne organisée par le collectif d'associations Les Communs d'abord et nous allons être ensemble pendant 2 heures où nous allons découvrir toutes les associations qui sont place de la Calade et qui vous attendent nombreux et nombreuses. Nous sommes bien sûr ensemble aussi sur ce plateau. Je ne suis pas toute seule. J'ai la chance d'être avec Jordan et Victor qui sont de l'émission On n'est pas sorti des ronces, qui nous manque beaucoup d'ailleurs sur l'antenne. Bonjour.
Salut Omblin. J'espère. Franchement, c'est un plaisir d'être là avec Victor pour parler toujours environnement et surtout à l'occasion de ce très bel événement qui est la COP d'ici. Franchement, ça fait extrêmement plaisir.
Et oui, merci beaucoup. On est ravis d'avoir été invités en tout cas pour essayer d'avoir. On aura plusieurs interviews pendant les 2 heures. Et on espère pouvoir avoir un maximum d'informations et pouvoir en savoir plus sur ce qui se passe.
Et oui, tout à fait. Nous allons avoir la chance d'être avec notamment Énergie 2050 qui était présent lors de la COP 28 à Dubaï. Nous serons avec CCFD Terre Solidaire, Alternatiba, Scientifiques en Rébellion, les Shifters, la Ressourcerie. Mais tout de suite, nous sommes avec une des associations fondatrices de cette COP d'ici. C'est Nîmes en Transition qui est représentée aujourd'hui par Jacques Sarda. Bonjour Jacques.
Bonjour. Et merci d'être là et de nous donner la parole à l'occasion de cet événement.
Alors, on va peut-être commencer déjà par qu'est-ce que la COP d'ici ?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de cette COP d'ici, de cet événement ?
Bien sûr. Donc, la COP d'ici, c'est une idée qui est née l'an dernier, après la COP de l'an dernier, qui était déjà en Égypte et qui, c'est pas très bien terminé, mais ça fait un certain temps que les COP se terminent pas très bien. Et donc on s'est dit, peut-être que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut que les choses se fassent. Et on va analyser pourquoi celle-ci va être encore moins bien que les autres, sans doute, peut-être. Et donc on a dit, c'est au niveau des citoyens de se prendre en main sur les territoires et de s'informer, d'échanger, de tracer des plans. Et donc voilà, on a dit, au lieu de faire la COP à Dubaï, nous n'irons pas à Dubaï et nous resterons à Nîmes et nous ferons notre COP à Nîmes. Et donc, il s'en est suivi pendant 3 semaines des ateliers de réflexion, des ateliers fresques du climat, fresques de la biodiversité, etc. Des choses de mise en pratique, notamment au niveau de la ressourcerie, de réutilisation de déchets pour faire des choses, etc. Et puis, des très belles conférences et quelques très beaux ciné-débats sur des thématiques un peu élargies par rapport aux thématiques habituelles de la COP. C'est-à-dire la COP, théoriquement, ne parle que climat. Là, on a essayé d'élargir le champ.
Alors, je me présente, donc Jordan Erlem, je me représente une dernière fois. Donc, je vais te poser quand même quelques questions sur ce bel événement qui a commencé à peu près le 18 novembre, c'est ça ?
Tout à fait, exact.
Donc, 12 jours à peu près en avance par rapport à la vraie COP.
Oui.
Parce qu'il fallait quand même un peu plus de temps. Est-ce que tu peux me détailler ce qui s'est passé déjà depuis quelques jours ? Quel type d'événements déjà t'ont marqué ? Ce qui s'est passé ? Quel type de personnes sont intervenues ? Est-ce que tu peux me détailler un peu tout ça pour les auditeurs ?
Alors, qu'est-ce qui m'a le plus frappé, puisque tu poses entre autres cette question-là ? Alors, à titre personnel, évidemment, je fais partie des gens qui militent quotidiennement sur toutes ces questions de climat, de biodiversité, etc. Donc, celui qui m'a le plus frappé, à la fois par ce qu'il pouvait raconter et à la fois par la façon dont il le raconte. Évidemment, c'était Arthur Keller. Arthur Keller, c'est un spécialiste des risques systémiques. C'est-à-dire que globalement, il n'analyse pas silo par silo chaque problématique, mais il dit qu'elles sont toutes liées. Et globalement, il est vrai que personne ne fait cet exercice, ou très peu. En tout cas, les gens qui nous dirigent ne font pas cet exercice de système. Parce que s'ils le faisaient, ils se diraient, mais effectivement, le système ne fonctionne pas tel qu'il a été conçu. Là, aujourd'hui, alors il a un exemple, lui. Dans sa conférence, il dit, si vous souffrez en même temps de mal de tête, de problèmes de peau et de problèmes intestinaux, vous allez voir un médecin qui va vous donner du paracétamol, vous allez avoir un dermato qui va vous donner une pommade, et vous allez voir un gastro qui va vous donner une bonne tisane, etc., etc. Et le problème, c'est que ce n'était pas ça, c'était un cancer généralisé. Et donc, si vous soignez un cancer généralisé à coup de pommade, de tisane et de paracétamol, ça ne va pas le faire. Alors la médecine a de temps en temps cette approche globale, holistique, on pourrait dire, mais en tout cas sur les questions du monde d'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a cette analyse-là. Donc lui, vraiment, m'a impressionné. Après, au niveau du grand public, Je pense que des choses plus basiques, comme des fresques du climat, des fresques de la biodiversité, pour des gens qui ne sont pas très avertis, effectivement, ils prennent, allez, on va le dire, ils prennent une claque. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils disent « Ah bon, c'est ça ». On ne leur raconte pas des histoires. C'est-à-dire que là, c'est les données du GIEC qui ont été mises en forme. Voilà. Par exemple, les ateliers aussi de... Moi, j'ai beaucoup aimé les ateliers qui ont été proposés par la ressourcerie. Pourquoi ? Parce que la ressourcerie, elle a fait un module qui s'appelait « Hacker Noël ». Hacker Noël, ça ne veut pas dire « on flingue Noël ». Ça veut juste dire « on le fait autrement ». On le pirate un peu dans sa pratique, mais surtout pas dans son esprit. C'est-à-dire que globalement, il proposait par exemple des ventes de jouets d'occasion ou de notre âge. Par ailleurs, il proposait aussi des ateliers de couture permettant de faire des emballages de Noël en tissu de récup, au lieu de gaspiller du papier ou du papier. Maintenant, c'est plutôt du plastique, en plus, ça génère plus abri, musée, soi-disant. Pareil, ils ont fait des sapins de Noël en bois de palette de récup. Est-ce que parce qu'on mettra un jouet d'occasion ou de notre âge dans un sachet récupéré, enfin récupéré, recyclé, réutilisé, et au pied d'un sapin en bois, est-ce que Noël sera moins beau ? Ben non, Noël ne sera pas moins beau. Simplement, Noël sera autrement, mais en tout cas, il sera beaucoup plus sobre. Or, aujourd'hui, c'est ça la question. La question n'est pas d'attendre que des gens comme Elon Musk nous inventent des techniques qui permettraient de sauver la Terre. D'autant que lui, de toute façon, son idée, c'est de partir sur Mars, donc la Terre, il s'en fout un peu. C'est de se mettre en pratique pour, effectivement, faire de la vraie sobriété. C'est-à-dire de travailler dans les failles du système pour, effectivement, les améliorer. Si on décline, par exemple... Pardon. Si on décline, je finis, juste ça. L'agriculture, par exemple, on nous dit le système agricole mondial aujourd'hui, il a 40% de pertes. C'est-à-dire que 40% de ce qui est produit au champ n'arrive pas dans l'assiette. Ben, on résout déjà la moitié de cette équation par une autre organisation. C'est juste une histoire d'organisation, c'est pas une histoire d'agronomie, hein. On est bien d'accord. On résout la moitié de ça. On économise 20% des gaz à effet de serre. C'est énorme. Voilà. Alors que l'efficacité du système, les avions qui voleraient avec de l'huile de friture ou je ne sais quoi, les avions verts, avant qu'ils gagnent 20%, ben, on peut toujours courir, hein. Donc c'est vraiment au niveau du système qu'il faut s'organiser. Et on peut le faire au niveau des territoires.
Parce que c'est intéressant ce que tu présentes. Tu expliques vraiment qu'il y avait vraiment deux notions pendant cet événement. Il y avait la notion, on va dire, un petit peu globale, où on a essayé d'imaginer un petit peu avec des personnes qui t'ont parlé. Tu as parlé un peu de la médecine, etc. Et le rapprochement qu'il pouvait y avoir entre la médecine et le climat. Et après, des actions hyper concrètes, hyper... voilà, tu parlais de Noël sobre, etc. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire comprendre et de faire adhérer les gens et surtout à voir un petit peu d'arriver à faire sentir que telle action peut avoir des conséquences en fait plus globales?
Enfin, je raisonnerais plutôt à l'inverse. C'est en ayant une approche globale des choses qu'effectivement on va pouvoir tracer des pistes. Globalement, les actions sur les divers champs, elles sont assez convergentes. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde la problématique du climat, la problématique de la biodiversité, il y a peu d'actions, mais il y en a quand même quelques-unes qui pourraient être bénéfiques pour le climat, mais maléfiques, si j'ose utiliser ce mot, pour la biodiversité, et vice-versa. Il y en a très peu, mais il y en a quand même quelques-unes. Et c'est là qu'il faut écouter ce que nous disent les scientifiques. C'est-à-dire que les scientifiques, ils ont tout leur rôle à jouer dans cette histoire-là. Alors, je sais qu'il y a une méfiance souvent dans les gens qui veulent se mettre un peu en marge de la société, enfin, ou raisonner autrement, il y a souvent une espèce de méfiance de la science. Je pense que, quand on dit ça, je pense que c'est confondre science et technologie. C'est-à-dire que la science, globalement, il y a aujourd'hui des consensus qui sont établis, etc., etc. Certes, la science d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et ça c'est l'histoire de la science, c'est normal. Mais en tout cas, il y a des procédures pour obtenir des consensus, et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se méfier de la science. La science ne raconte pas des histoires. Par contre, la technologie, c'est-à-dire l'exploitation de la science, là, il y a des risques, effectivement. Et je parlais d'Elon Musk tout à l'heure, ça n'est...
Après, quand on voit, on en parlera après avec notre prochain invité, hein, mais en tout cas, quand on voit le président de la COP28 qui a des doutes sur le consensus scientifique, sur les conséquences des énergies fossiles sur le changement climatique, est-ce que, franchement, ça va se poser la question s'il n'y a pas soit un problème de croyance, soit presque de la provocation,
hein. Je pense qu'on est dans le domaine du cynisme. Ce matin, moi, j'ai entendu aux infos sur une autre chaîne que la vôtre, hein, mais... Il m'arrive d'écouter d'autres radios que, effectivement, le président de l'OPEP avait envoyé un courrier à tous les membres de l'OPEP leur disant profitez de notre. Enfin, à Dubaï, faites en sorte qu'il n'y ait pas le mot énergie fossile dans l'accord final. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Je précise que l'OPEP, hein, c'est l'organisation des producteurs de pétrole.
Des producteurs de pétrole.
Donc voilà. Donc, bah, de toute façon, il n'y a jamais eu autant de lobbyistes des énergies fossiles durant cette COP-là. On a battu totalement le record, je crois.
Bah, évidemment, quand elle est présidée par un président d'une société pétrolière.
Oui, voilà. Non, de toute façon, tu as tout dit. Avant de recevoir notre prochain invité, où on parlera un peu plus de la COP28, j'ai envie de poser quand même quelques questions sur la COP d'ici. Parce que. Alors, on s'excuse, hein, y a une petite moto qui passe derrière nous. Déjà te poser quelques questions donc, sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été dur à mettre en place au niveau politique cette COP d'ici? C'est-à-dire est-ce que vous avez eu des, voilà, tout simplement des obstacles? Parce que bon voilà, ça s'est passé sur plusieurs jours, dans plusieurs endroits de la ville. Mmh. Est-ce que vous avez eu des difficultés à mettre en place ce projet-là?
Bah, des difficultés d'usage, je dirais pas plus, pas que ça. Voilà. Après, non, on n'a pas vraiment. Il y avait une espèce d'élan commun avec des associations qui travaillent sur des choses différentes et qui travaillent sur la solidarité, parce que la solidarité fait aussi partie des choses à résoudre. D'autres qui travaillaient sur le féminisme, mais effectivement, ça fait du sens aussi, parce que qui seront les premières victimes des questions climatiques? Ben, bien souvent, c'est les femmes. Ouais. Pas forcément les femmes de France, hein, mais les femmes dans les pays en développement qui font 3 journées dans une seule, etc., etc. C'est elles qui vont payer, qui payent l'addition en première ligne. Donc ces associations travaillent sur des sujets différents, mais les difficultés on n'en a pas eu parce que globalement on s'est débrouillé un peu avec le privé. C'est-à-dire oui. qu'on est allé voir l'université, on est allé voir les lycées pour avoir des lieux d'hébergement, les comités de quartier, etc. Donc globalement les choses se sont passées comme ça. On a demandé aucune subvention ni à la municipalité, ni à la métropole, ni au département. Bon ben voilà. Mais par contre on espère que pour l'an prochain ça pourrait venir. Voilà. C'est-à-dire en disant ben, peut-être c'est une bonne idée de réfléchir à cette échelle-là. Peut-être qu'on peut vous donner un coup de main.
Ce serait quoi les leviers d'amélioration? Qu'est-ce que tu espères pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu aimerais de plus ou de moins?
Ben de plus, c'est-à-dire que globalement, il faut, à mon avis, il faut travailler toujours. Il y a 2 sillons à travailler à la fois. C'est-à-dire, il faut aller en profondeur, vraiment décortiquer les sujets au fond, y compris pour les militants. Et par contre, il faut aussi rester au niveau du grand public. C'est-à-dire des dispositifs comme Fresque du climat, etc., etc. Ça, c'est des dispositifs qui s'adressent au grand public. Et c'est bien. Le cinéma est aussi une bonne façon. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de documentaires qui sortent sur ces problématiques-là. Le Sémaphore est un cinéma qui diffuse volontiers toutes ces choses-là. Et donc ça aussi, c'est un outil de communication très intéressant.
Parce que souvent, moi par exemple, j'avais fait un événement il y a un an, Agir pour le vivant, sur Arles, qui était un événement où il y avait pas mal de conférences. Ce qu'on reproche souvent aux événements en matière de vulgarisation, en tout cas de sensibilisation aux enjeux écologiques, c'est ce côté extrêmement un peu scolaire et basé énormément sur voilà, des discours, des conférences, de l'éducation. Et souvent, ce qu'on reproche, c'est que, bon, en tout cas, les personnes qui sont assez peu sensibles de base initialement à ces enjeux-là, souvent, ils disent, mais en fait, oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, c'est le reproche classique qu'on fait à ce type d'événement-là. Toi, qui es donc dans le militantisme, en tout cas, qui est actif par rapport à ces enjeux-là, quel est pour toi, il n'y a pas de meilleur, mais bon, la meilleure approche à faire face à une personne, face à des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées à cette cause-là? Quelle est la meilleure approche à faire? Parce que souvent on dit maintenant faut à la fois l'activisme c'est bien mais pas trop, voilà, il y a toujours ce genre de...
Alors je vais te dire que j'ai pas de réponse à cette question là parce que c'est depuis au moins 10 ans c'est la vraie question qui m'interpelle. C'est à dire faut-il dramatiser,
faire peur?
Des fois on nous dit ça risque de faire peur, mais Arthur Keller, par exemple, dans sa conférence, montre que le résultat de l'analyse de 150 études sur la question montre qu'en gros, ben, la peur ne paralyse pas. Elle paralyse sur l'instant, mais globalement, elle permet de rebondir et de se mettre en œuvre. Donc lui, il dit la peur est saine. Donc ça, c'est... Mais il y a un débat là-dessus, effectivement. Il y a eu un débat entre le président de la République et un jeune il y a quelques semaines,
oui,
où un jeune a dit au président... vous n'en faites pas assez, et le président a dit oui, mais il ne faut pas faire peur aux gens parce que la peur paralyse. Enfin, la peur, c'est ça, la peur amène l'inaction. Et globalement, le lendemain, la presse écolo, Réseau Action Climat, Bon Pote, etc., on dit mais non, monsieur le président, c'est l'inverse, c'est votre inaction qui crée cette peur, qui crée l'angoisse. Il y a un vrai débat. Mais peut-être que tout à l'heure, d'ailleurs, si on a le temps, en dehors de l'émission, on aura, parce qu'on a prévu d'avoir des débats mouvants, donc c'est des débats, mais on débat avec ses pieds. Et c'est une question qu'on peut poser. C'est-à-dire en disant, voilà, on trace une ligne, vous le mettez à droite, vous le mettez à gauche, vous échangez vos arguments, voilà. Donc c'est plutôt marrant, mais c'est une question qu'on peut effectivement trancher. On peut faire un exercice intellectuel là-dessus.
Et justement, on invite tous les auditeurs et auditrices à venir Place de la Calade, déjà pour découvrir l'Agora citoyenne, toutes les associations qui se sont déplacées aujourd'hui en ce samedi 9 décembre pour la COP d'ici. On se retrouve juste après, on va appeler justement Énergie 2050. Nous serons en direct avec Stéphane Poufari qui était présent justement à cette COP 28 à Dubaï. A tout de suite.